Livre 4. Année 403. Le but de Théophile, en choisissant la route de terre pour gagner Constantinople, était d'endoctriner au passage les évêques des provinces qu'il devait traverser. Et il ne cachait pas le but de son voyage. « Je vais à la cour, » disait-il, « pour déposer l'archevêque Jean. » Ce fut un jeudi à la 6e heure du jour, c'est-à-dire vers midi, que Théophile, donnant le signal, franchit le Bosphore avec ses 28 suffragants. Avec son cortège d'évêques et son armée d'Égyptiens, il se mit en marche à travers la ville pour gagner le quartier de Pérasma, où l'empereur mettait à sa disposition un des palais impériaux appelé le palais de Placidie. Ce quartier de Pérasma, qui porte aujourd'hui le nom de Péra, était séparé de la ville proprement dite par le golfe de Céras ou de la Corne, lequel formait déjà le grand port, et des barques nombreuses, amarrées sur les deux rives, servaient de communication jour et nuit d'un quartier à l'autre. Pour aller au palais de Placidie où Théophile devait loger, il fallait passer devant la basilique épiscopale à laquelle l'archevêché était attenant. Chrysostome y attendait Théophile pour l'inviter à descendre chez lui. Mais celui-ci s'excusa. Il n'entra pas même à l'église pour y faire un acte d'action de grâce comme il convenait à un évêque et comme c'était la coutume. Poursuivant sa route dédaigneusement, il alla s'installer avec sa suite au palais impérial préparé pour lui. La conduite qu'il tint ce jour-là fut sa règle pour les jours suivants. Il repoussa toutes les invitations de l'archevêque, il refusa même de le voir et de communiquer ecclésiastiquement avec lui. « Ceci, disait Chrysostome offensé, et qui voulait à toute force une explication, ceci n'est-il pas une déclaration de guerre faite à un évêque aux portes de son église? N'est-ce pas le prélude d'une bataille et un grand scandale pour toute la ville ?» Théophile n'avait pas manqué de se lier avec Eugraphie, dont il fréquentait assidûment la maison. Il y avait donc à Constantinople deux conciliabules en permanence contre Chrysostome, l'un au palais de Placidie pour les intrigues courantes et la réunion des évêques étrangers, l'autre chez Eugraphie pour la direction supérieure du complot. Le libelle d'accusation, tel que nous le lisons encore aujourd'hui dans les actes du concile, conservé à la postérité par un successeur de Chrysostome, le très laborieux et très savant patriarche Photius, contenait 29 chefs ou articles qui pouvaient rentrer sous ces incriminations générales. Premièrement, fait de violence et sévices contre les personnes. Deuxièmement, graves injures. Troisièmement, vol. Quatrièmement, usurpation de fonctions ecclésiastiques. Cinquièmement, manquement aux mœurs. Sixièmement, manquement à la discipline et aux coutumes de l'Église. Septièmement, sédition et trahison politique. C'était un ramas d'imputations, la plupart improbables, plusieurs évidemment calomnieuses, puisées dans les bruits vrais ou faux, imaginaire ou amplifié, que la méchanceté du parti ennemi faisait courir depuis 2 ans contre Chrysostome, mais auquel le témoignage de l'archidiacre venait donner une consistance inattendue. Les cas d'outrage étaient nombreux. D'abord, l'archevêque avait insulté les clercs en masse, en les traitant de gens corrompus, prêts à tout faire. Il avait même composé contre eux un livre plein de calomnies. On reconnaît là le fameux traité sur les femmes sous-introduites dont il a été question. Il avait de plus qualifié le vénérable Épiphane de radoteur et de démoniaque. Enfin, l'archevêque avait accusé de vol en présence de tout son clergé, ses diacres Edaphius, Jean et un troisième, nommé aussi Acacius. Beaucoup d'articles aussi étaient consacrés aux détails des exécutions épiscopales de Jean Chrysostome dans les églises d'Asie et d'autres violations des canons. Il a été mention aussi des accusations de cupidité et de vol de choses saintes portées contre Chrysostome par ses ennemis. Vol de vases sacrés et de riches ornements dans les églises, vol de marbre, vente frauduleuse d'un petit domaine ecclésiastique. Je ne reviendrai pas sur ces calomnies présentées comme des faits certains. On y sommait aussi l'accusé de déclarer où avaient passé les revenus de l'Église. Les manquements aux mœurs étaient ainsi formulés. Il reçoit des femmes et reste avec elles, seul à seul, rejetant dehors tous les autres. Il mange seul et dans ses repas solitaires, il mène la vie d'un cyclope, honteusement et voluptueusement. J'ai parlé dans ces récits même des orgies de cyclopes et de tout ce qu'il y avait de calomnieux et d'absurde dans les faits d'intempérance attribués à Chrysostome. Quant à l'accusation de recevoir des femmes en secret, elle l'indigna plus que tout le reste. Il en était encore tourmenté au fond de son exil, d'où il écrivait à l'évêque Syriacus, son ami, « Ils ont osé m'accuser d'adultère, les malheureux. Si je pouvais montrer au peuple la frêle charpente de mon corps, ce serait ma seule justification. La mort m'a frappé tout vivant, et le corps que je traîne n'est déjà plus qu'un cadavre. » En juillet 403, 85 évêques de toutes les provinces de l'Empire d'Orient étaient alors présents dans la ville impériale. Sur ce nombre, 35 partirent accompagner Théophile à Chalcédoine. Les autres restèrent à Constantinople, dévoués pour la plupart à l'archevêque, mais comptant dans leur rang quelques hommes mal sûrs ou indécis. Théophile fit alors parvenir à Chrysostome une lettre insolente dans laquelle on déniait à l'archevêque son titre, comme s'il eût été déjà jugé et déposé. Les évêques firent éclater leur indignation. « Il faut répondre, crièrent-ils de toutes parts à Chrysostome, et répondre au seul Théophile, auteur de cette insulte et provocateur de tout ce qui se fait là-bas. » Sur un signe approbatif de l'archevêque, ils se mirent à l'œuvre et rédigèrent une réponse dont ils lui donnèrent lecture. « Cesse, disait-il au patriarche, cesse de bouleverser l'ordre ecclésiastique et de diviser l'Église, cette fille du ciel pour laquelle le Christ s'est fait chair. Si au mépris des saints canons de Nicée, tu veux juger hors des limites de ton territoire, passe ici, dans une ville où la police est bien réglée, et ne cherche pas à attirer Abel dans les champs à l'exemple de Caïn. C'est à nous en effet de juger et de te juger, toi, tout le premier, car nous avons en main des mémoires qui contiennent 70 articulations de crimes que tu as commis. Et en outre, notre concile est plus nombreux que le tien. Vous n'êtes que 36, presque d'une seule province. Nous sommes 40 de plusieurs provinces, et nous comptons parmi nous 7 métropolitains. Tu vois que pour l'observation de ces canons dont tu parles, il faut nécessairement que le plus petit nombre soit jugé par le plus grand, surtout quand le plus grand est le plus honoré et le plus digne. Nous avons ici même une de tes lettres par laquelle tu écrivais à Jean, notre frère dans l'épiscopat, qu'il ne faut pas qu'un évêque entreprenne de juger les autres hors de son domaine ecclésiastique. Pour être conséquent avec toi-même, soumets-toi à notre citation ou bien fais en sorte que tes accusateurs cessent de t'accuser. La relation du concile sur la condamnation de Chrysostome était sous les yeux de l'empereur, qui avait donné son approbation à la décision synodale par une lettre mentionnée aux actes. Mais aucune mesure n'était prise pour l'exécution de la sentence. Chrysostome continuait d'occuper le palais épiscopal et la basilique. Cet état d'indécision dura 3 jours. L'église de Constantinople, pendant ce temps-là, restait en proie à un désordre inexprimable. Les membres du clergé métropolitain, interdits ou non par l'archevêque, rentraient de toutes parts dans les basiliques. Les premiers le faisaient avec un air de défi insolent, mais le peuple les chassait ou désertait leurs offices. Sous le coup du décret synodal, les évêques jusqu'alors fidèles se dispersaient peu à peu et le triclinium fut bientôt désert. De temps en temps, un officier impérial avec quelques appariteurs allait au palais épiscopal signifier à l'archevêque qu'il devait se préparer à partir. L'archevêque opposait un refus, l'officier se retirait et l'empereur défendait d'employer la force. Réunis en masse compacte autour de la basilique et de l'archevêché qui se reliaient l'un à l'autre par un cloître, le peuple se tenait en sentinelle jour et nuit, balancé entre l'espérance et la crainte. Point de menace pourtant, point de parole outrageante contre le prince et ses officiers. Un seul cri sortait de toutes les bouches et allait retentir par intervalles jusque sous la demeure d'Arcadius. Nous demandons un concile général. Il faut un vrai concile pour juger l'archevêque. C'était le mot d'ordre du peuple. C'était aussi celui de Chrysostome. Un faux concile m'a condamné, répétait-il. Un vrai concile doit m'absoudre ici, dans mon église, et prononcer entre mes juges et moi. Bloqué, pour ainsi dire, comme emprisonné dans cette muraille vivante que lui créait l'affection du peuple, et qu'il y eut péril à vouloir rompre pour user de violence envers lui, il passait incessamment de sa demeure à la basilique et de la basilique à sa demeure. Ici, il avait à conseiller ses serviteurs et quelques prêtres fidèles. Là, une foule éperdue que sa vue et ses paroles remplissaient de douleur et de joie. Les nouvelles qui se succédaient d'instant en instant devenaient de plus en plus sinistres. On signalait des députations d'évêques venues coup sur coup de Chalcédoine supplier l'empereur d'assumer par la force la sentence et l'autorité du concile. Et l'impératrice se joignait à eux, essayant toutes ses séductions sur son faible mari. Déjà, disait-on, il s'agissait non plus de l'exil, mais de la mort. On ne balançait plus qu'entre la hache et l'épée. Tels étaient les bruits répandus. L'archevêque lui-même croyait sa mort prochaine et prêchait au peuple la résignation. Les litanies, cependant, retentissaient toute la nuit par la ville avec un redoublement de lamentations et de prières. Le peuple voulut y entraîner l'archevêque, qui sembla consentir d'abord, puis se rétractant, il leur dit « Allez-y et priez, je serai avec vous en esprit, par la charité qui réunit le chef aux membres. » Un acte impudent de Sévérien tira le peuple de cette tranquillité inquiète et douloureuse où le retenait l'ascendant de Chrysostome. Théophile n'avait pas osé reparaître à Constantinople, mais Sévérien eut cette audace le second jour après la condamnation. Il eut aussi l'audace d'entrer dans une église, de monter en chaire et d'y parler sur les événements qui venaient de s'accomplir. Il présenta la condamnation de l'archevêque comme le châtiment de son orgueil. Son orgueil l'eût justifié, disait-il, quand bien même il n'eût pas commis d'autres crimes. L'auditoire se souleva contre ce lâche avec une telle violence qu'il eut à peine le temps de s'échapper et de regagner le détroit. Toutefois, cette bravade insultante vis-à-vis d'un homme tombé d'un ancien ami, d'un protecteur offensé, de la bouche de qui Sévérien recevait naguère le pardon et la paix, mit Chrysostome hors de lui. Il vit là une insulte de l'impératrice elle-même par l'intermédiaire de cet évêque de cour, sa créature, et confondant la souveraine avec le conseiller, il tint au peuple dans sa basilique un discours resté fameux et qui décida vraisemblablement sa ruine, encore suspendue. « Mes frères, dit-il à cette foule frémissante autour de sa chair, une furieuse tempête nous assaille et les flots nous battent avec plus de force que jamais. Mais nous ne craignons point d'être submergés car nous sommes fondés sur le roc. Que la mer sévisse tant qu'elle voudra, ce roc ne saurait être ébranlé. Que les flots s'enflent et débordent, le navire de Jésus ne sombrera pas. Et qu'ai-je à craindre, je vous prie? La mort? Je dis comme l'apôtre, ma vie est le Christ et la mort m'est un gain. L'exil? La terre est au Seigneur avec tout ce qu'elle contient. La confiscation? Je n'ai rien apporté en ce monde et je n'en remporterai rien. Tout ce qui peut faire trembler les hommes, je le méprise. Je me ris des biens, je me ris des dignités que les autres convoitent. Richesse ne m'est pas plus que pauvreté, et si je désire vivre, c'est pour être avec vous, c'est pour travailler à votre perfectionnement spirituel. Je vous parle comme je fais, et j'en appelle à votre amour pour que cet amour soit confiant. Non, non, on ne scinde pas, on ne mutile pas l'Église. L'Église est indivisible. On n'y sépare pas le chef des membres. Il reste uni malgré tout. Ce qui a été dit de l'homme et de la femme est encore plus vrai du pasteur et du troupeau. Ils ne font qu'un. Et ce que Dieu a uni, l'homme est impuissant à le séparer. Que sont devenus, dites-moi, les tyrans qui tentèrent jadis d'opprimer l'Église? Dites-moi, où sont les chevalets de torture? Où sont leurs fournaises? Où sont les dents de leurs bêtes féroces et les glaives aiguisés de leurs bourreaux? Ils ont voulu agir et n'ont rien fait. Le même silence et le même oubli recouvrent pour toujours les tyrans et l'arsenal de leurs crimes. Mais l'Église, où est-elle? Elle resplendit, plus éclatante que le soleil sur tout l'univers. Et si les tyrans n'ont pu étouffer la foi quand il existait à peine des chrétiens, comment peuvent-ils l'espérer aujourd'hui que les chrétiens couvrent la terre? On vit parfois au temps des martyrs toutes les cruautés imaginables s'exercer sur une jeune fille à peine nubile. Et cette vierge se montrait plus forte que les aiguillons de la torture ou que les morsures de la flamme. Les dents de fer avaient beau labourer ses flancs, sa foi restait inébranlable, et l'on espérerait venir effrayer tout un peuple? Ah, ils ne nous connaissent guère. Le Christ est avec moi, que craindrais-je? Son évangile que je tiens est le bâton qui m'appuie. C'est là ma sécurité, c'est le port tranquille de mon âme. Les tempêtes qu'on souffle, les flots qu'on pousse, la mer qu'on lance contre moi, les fureurs des princes et des grands, je ne fais pas plus de cas de tout cela que d'une toile d'araignée. Et si notre affection mutuelle ne me retenait dans ses liens, je ne ferais aucune difficulté d'aller ailleurs. Savez-vous, mes bien-aimés frères, pour quel motif on veut me perdre? C'est que je ne fais point tendre devant moi de riches tapis, que je n'ai jamais voulu me vêtir d'habits d'or et de soie, que je ne me suis point abaissé à satisfaire la gourmandise de ces gens-là en tenant table ouverte pour eux. La race de l'aspic domine toujours. Il reste de la postérité de Jézabel et la grâce combat encore contre Élie. Hérodiade aussi est là. Hérodiade danse toujours en demandant la tête de Jean, et on lui donnera la tête de Jean parce qu'elle danse. Mes frères, c'est ici un temps de larmes, tout se tourne vers l'infamie. L'or seul donne ici l'éclat et la gloire. Écoutez cependant ce que dit David. Si vous possédez une abondance de richesses, n'y placez point votre cœur. Et qui est-ce qui disait cela? N'est-ce pas un homme élevé sur un trône royal? Ne gouvernit-il pas son empire avec une autorité souveraine? Eh bien, jamais il ne jeta les yeux sur la fortune d'autrui pour y exercer des rapines. Jamais il n'employa sa puissance à détruire la religion. Il se mettait en quête de posséder des soldats plutôt que des trésors et ne se montrait point dans son gouvernement d'esclave d'une femme. Oh malheur, malheur aux femmes qui ferment l'oreille aux avertissements du ciel, et ivres, non de vin, mais d'avarice et de colère, assiègent leurs maris de mauvais conseils pour les entraîner à l'injustice. Il y avait dans ce discours, fort clair d'ailleurs, un mot qui ne permettait aucun doute sur les intentions de l'orateur, mot plus fort que les allusions si transparentes qu'elles fussent, mais qu'on ne peut rendre en français, parce qu'il joue sur le nom même de l'impératrice. Eudoxia veut dire en grec « bonne renommée, honneur ». Adoxia est le contraire et veut dire « déshonneur, infamie ». Or, en disant que dans cet empire qui n'avait plus de loi que le caprice d'Eudoxie, tout se tournait vers le déshonneur, Chrysostome s'était servi du mot « adoxia » qui rappelait le nom de la femme d'Arcadius. On comprend aisément le reste. Ce discours fut tenu le second jour après la condamnation et suivant toute apparence vers le soir. Le lendemain matin, avant midi, Chrysostome voyait entrer chez lui un comte du palais impérial qui le somma au nom de l'empereur de quitter la ville sur le champ. « L'empereur ne veut plus de retard, lui dit-il. Un navire est prêt pour te conduire au lieu marqué pour ton bannissement. Au moindre signe de résistance, j'ai l'ordre de te faire enlever par des soldats. » C'était infailliblement une bataille qui s'annonçait aux portes de la basilique et une terrible effusion de sang. Cette image se présenta à la pensée de Chrysostome et le fit frémir. S'approchant de l'officier impérial et des appariteurs de son escorte, il leur dit « Me voici, conduisez-moi où vous voudrez. » L'officier le remit à la garde d'un curieux, on appelait ainsi les agents supérieurs de la police, et reprit avec ses appariteurs le chemin du palais en traversant la foule. Il devait retrouver Chrysostome dans un autre lieu. Le cloître qui séparait la basilique de l'archevêché communiquait par une porte secrète avec un quartier retiré de la ville. Chrysostome et son gardien sortirent par là sans être aperçus et gagnèrent une maison située dans le voisinage où ils restèrent cachés jusqu'au soir. La nuit venue, le curieux et le prisonnier se mirent en marche vers le port par des rues détournées, espérant n'être point reconnus. Mais comme ils approchaient du port, des gens du peuple signalèrent Chrysostome et le bruit se répandit aussitôt dans la ville qu'on enlevait l'archevêque. Des groupes nombreux accoururent alors pour empêcher son départ, mais Chrysostome les contint avec autorité. « Laissez-moi partir, leur dit-il. Je dois obéissance à l'empereur, et d'ailleurs une goutte du sang de mon peuple ne sera pas versée pour moi. Je confie ma cause au futur concile. » L'obscurité de plus en plus épaisse protégea sa retraite. Le même comte impérial était au port avec des soldats et des matelots. Ils entourèrent l'archevêque et montèrent avec lui dans le navire qui leva l'ancre aussitôt. Il cingla à travers la profonde Tide jusqu'à la ville de Hiéron, port de la Bithynie, où le comte avait mission de déposer Chrysostome. La nuit durait encore. Le navire s'étant approché de terre, les gardes y descendirent l'exilé et reprirent la mer. Le choix de ce lieu trop voisin de Chalcédoine parut suspect à l'archevêque. Il y soupçonna un piège pour le faire tomber aux mains de ses ennemis et à ses yeux mieux valait mille fois la mort. Avant donc que le jour fût levé et l'éveil donné au magistrat, il loua lui-même une barque et longeant la côte, il se fit conduire au golfe d'Astacus, dans la petite ville de Prénète, située sur la rive opposée à Nicomédie. Il y avait dans le voisinage au milieu des champs une villa dont il connaissait le maître et où il se rendit pour se cacher. Son premier mouvement en mettant le pied dans la retraite hospitalière fut de tomber à genoux et d'appeler la protection du ciel sur cette église de Constantinople qu'il n'avait point quittée, disait-il, car il l'emportait dans son cœur. Sa fuite avait été opérée avec tant de prudence et de mystère, sa trace était si complètement perdue, que tout le monde put croire, comme le comte le rapporta, que le banni se trouvait au lieu fixé pour son exil. La nuit de son enlèvement fut pour Constantinople une nuit de deuil et de larmes. L'histoire nous en fait un touchant tableau. Elle nous montre cette multitude naguère furieuse et exaltée, devenue tout à coup silencieuse et morne, courant aux églises pour prier et réclamer du ciel ce père que lui enlevaient les hommes. Comme les églises ne suffisaient pas, on priait sur les dalles des rues, sous les portiques des places, partout, enfin, et suivant le mot de Chrysostome lui-même, la ville entière n'était plus qu'une église. Les maisons des pauvres étaient désertes. Hommes, femmes, enfants, artisans, mariniers, marchands, tout le monde était là, tout le monde voulait participer à cette émeute de supplications et de larmes qui s'élevait vers la justice du ciel. Un seul cri, poussé de temps à autre, rappelait les passions de la terre. « Qu'on rassemble un conseil !» C'était le seul remède que les hommes pussent offrir maintenant. Lorsqu'au point du jour, le peuple fatigué commençait à rentrer dans ses quartiers, Théophile arriva de Chalcédoine et ramassant tout ce qu'il y avait d'alexandrin au port, il prit possession de la ville comme un conquérant ecclésiastique. Les clercs qui jusque-là s'étaient tenus cachés accoururent autour de lui pour faire valoir leur service et recevoir ses instructions. Il récompensa les plus zélés, leva l'interdiction des plus indignes et prodigua ordination, avancement, dignité à tout venant. Tout ce qu'avait réglé l'archevêque fut aboli. L'ordre de Théophile à ses prêtres fut que chacun allât prendre possession de son église particulière. Mais la foule ameutée s'y opposa. Théophile lui-même, ayant voulu pénétrer dans la basilique épiscopale, les fidèles le repoussèrent. Les alexandrins de son escorte tirèrent leurs armes et on se battit. La résistance du peuple fut énergique. L'église et le baptistère se remplirent de cadavres et la cuve baptismale regorgea, dit-on, de sang humain. La bataille, une fois commencée, les magistrats envoyèrent des troupes pour la soutenir. On se battit partout. Chaque église devint une citadelle où le peuple se barricadait et que les soldats forçaient militairement à coups de levier et de traits. Le sang coulait dans les sanctuaires et des cris de malédiction y remplaçaient l'hymne de la miséricorde. Quoique les couvents de Constantinople fussent généralement hostiles à l'archevêque, qui avait voulu les réformer, un d'eux ayant pris parti pour sa cause, et chassé des prêtres intrus, les soldats coururent, sus aux moines. On les massacrait dans les églises, on fouillait leurs cloîtres pour les égorger, on les poursuivait, l'épée au poing, jusque dans les rues, quand ils parvenaient à fuir. Un auteur païen raconte que plusieurs habitants de la ville périrent ainsi, sous les coups des soldats, parce qu'ils portaient des vêtements noirs, soit pour cause de deuil, soit pour tout autre motif, et qu'il ressemblait à des moines. Cet incident, à ce qu'il paraît, fut fort du coup des polythéistes qui triomphèrent de voir des mains chrétiennes les débarrasser des hommes au manteau noir, leurs mortels ennemis, les destructeurs acharnés de leur temple et les violateurs de leur mystère. Telle fut la journée de Théophile, de l'Égyptien comme l'appelaient les Johannites. La nuit appartint à d'autres épouvantes et d'autres fureurs. Des secousses de tremblements de terre se firent sentir au faubourg de l'Hebdomont et s'étendant avec une plus grande intensité vers le centre de la ville, ébranlèrent les quartiers opulents et en particulier celui de la résidence impériale. Dans la chambre de l'impératrice, le lit, soulevé avec force, roula sur le pavé. Eudoxie crut sa dernière heure venue et se précipitant pâle et les cheveux épars dans la chambre de son mari, « L'homme qu'on nous a fait bannir est injuste, lui dit-elle avec angoisse, et Dieu se charge de le venger. Si vous voulez conserver l'Empire, faites qu'il soit rappelé sans retard. » Joignant les larmes aux supplications, elle resta agenouillée jusqu'à ce que l'empereur lui eût fait la promesse solennelle. Plus rassurée alors, elle écrivit à l'archevêque la lettre suivante. « Je supplie ta sainteté de ne pas croire que j'ai pris part aux choses qui se sont passées à ton sujet. Je suis innocente de ton sang. » Ce sont des hommes méchants et corrompus qui ont formé un complot contre toi. Dieu est témoin de la vérité de mes paroles, comme aussi des larmes que je lui offre en sacrifice. Le jour n'était pas encore levé que déjà un des officiers de la cour recevait d'elle l'ordre de partir pour Hieron afin de remettre cette lettre en main propre à l'exilé et d'ajouter de vive voix qu'elle voulait qu'il revînt, que son prompt retour pouvait seul conjurer la ruine de la ville. Ce premier envoyé ne reparaissant point, Eudoxie impatiente en dépêcha un second, puis un troisième, ce que voyant le peuple, il craignit qu'on ne lui cachât quelque chose de sinistre et beaucoup de gens se mirent à la recherche de l'archevêque, de sorte que la Propontide se trouva sillonnée de nombreux navires entre la côte de Thrace et celle de Bithynie. Pendant ce temps-là, on s'enquérait à Hieron et dans les ports voisins de ce qu'était devenu Chrysostome, qu'on découvrit enfin dans sa villa de la campagne de Prénète. Surpris de ce revirement et toujours en soupçon de quelque embûche, tant il savait profonde la perversité de ses ennemis, l'archevêque hésitait à partir. L'arrivée de l'eunuque Brison le détermina. C'était, comme on l'a vu dans les récits précédents, le premier chambellan d'Augusta et un des secrétaires de l'empereur, homme d'ailleurs honnête et pieux, qui avait été blessé d'un coup de pierre à la tête dans une de ses contre-litanies opposées par Chrysostome aux Ariens, et qui, bien qu'attaché à sa maîtresse, penchait secrètement pour l'archevêque. Ses explications dissipèrent tous les nuages et Brison le persuada de le suivre. Ils virent, en approchant de Constantinople, l'entrée du Bosphore éclairée par des milliers de flambeaux, portés sur des barques, et d'autres milliers encore qui garnissaient la rive et le port, car on était au milieu de la nuit. C'était une splendide réception que le peuple faisait à son évêque. Ce spectacle l'émut profondément. Toutefois, il ne voulut pas débarquer au port. « Évêque déposé, disait-il, je ne puis rentrer dans mon église qu'après avoir été légalement absous par un concile. » Et il se fit conduire au faubourg qui portait le nom de Marianne. L'impératrice eut beau le faire prier dans les termes les plus humbles et les plus pressants d'entrer dans la ville sans plus de retard, par crainte de quelque nouveau trouble, il s'obstina dans sa résolution. Le peuple termina le débat en l'allant chercher dans le faubourg de Marianne et en l'emmenant malgré ses résistances à la basilique épiscopale. Là, on lui cria de monter sur le trône de l'évêque afin d'y prononcer la formule de paix. Et comme il s'y refusait par les mêmes raisons qu'il s'efforçait vainement de faire comprendre, des hommes vigoureux le saisirent et l'y placèrent bon gré mal gré, tandis que la foule prosternée à terre lui demandait sa bénédiction. Que pouvait-il faire ? il la donna, attendrie jusqu'aux larmes. On voulut aussi entendre sa voix éloquente, comme pour bien s'assurer qu'il était là. Il monta à Lambon, et les tachygraphes nous ont conservé quelques fragments du discours qu'il improvisa, mais que des applaudissements et des acclamations de la foule l'empêchèrent d'achever. Il prit pour texte un récit de l'Ancien Testament dont il fit l'application à lui-même et aux événements qui avaient ébranlé un moment son autorité épiscopale. Nous lisons dans nos livres saints, disait-il, que Sarah, femme d'Abraham, était tombée aux mains de Pharaon, roi d'Égypte, qui voulait corrompre sa chasteté. Un miracle la délivra et couvrit d'une protection céleste le juste Abraham, quand tout secours humain le trahissait. La même chose est arrivée à cette église, mon épouse, dont un Égyptien a voulu souiller la pureté. Un jour durant, elle est restée aux mains de cet ennemi comme Sarah, une nuit durant, sous la puissance de Pharaon. Et toutes deux sont demeurées incorruptibles. Et de même que Sarah, sortie du palais de ce roi d'Égypte chargé de présents et de richesses, ainsi l'église de Constantinople est sortie de sa captivité plus brillante, plus pure et pouvant offrir au ciel des trésors de sa fidélité. L'évêque légitime avait triomphé de l'imposteur égyptien. Le prêtre, à son tour, voulut triompher des puissances du monde. Chrysostome le fit en couvrant d'éloges cette même Augusta, sa persécutrice, qui, sous le poids de la terreur, courbait maintenant le front devant lui. Il exalta sa piété, l'appelant la mère des fidèles, la nourrice des solitaires, l'appui des pauvres, la protectrice des saints. Il raconta sa sollicitude pour le rendre à Constantinople, les différentes ambassades qu'il avait reçues d'elle, et il lut la lettre qu'elle lui écrivait la nuit précédente au lieu de son exil. Il y ajouta ces paroles qu'elle lui avait fait adresser oralement par un officier du palais au moment de son arrivée. « J'ai obtenu de faire la bonne action que je souhaitais avec ardeur. J'ai rendu la tête au corps, le pilote au vaisseau, le pasteur aux brebis, l'époux de l'église au lit nuptial. Ce succès m'est plus précieux que l'éclat de mon diadème. » La paix était contenue dans cette déclaration de soumission à l'Église et dans celle du prêtre qui l'acceptait. Tout se trouvait donc fini à Constantinople, au moins pour quelque temps, et il ne restait plus aux brouillons, aux envieux, aux lâches, qu'une seule chose à faire, fuir ou se cacher. En effet, le synode du chêne se dispersa le jour même sans mener à fin le procès d'Héraclide. Sévérien de Gabal avait pris les devants en regagnant à grandes enjambées son diocèse. Quant à Théophile, que le peuple de Constantinople voulait jeter à la mer s'il reparaissait, il s'embarqua pour l'Égypte avec ses 28 suffragants, à Chalcédoine sans doute. Chrysostome, rentré en grâce auprès de l'empereur, ne cessa de solliciter la réunion d'un grand synode de Constantinople pour casser les actes du faux synode du chêne et lui donner à lui-même la réparation canonique. L'empereur céda à son désir et le décret fut signé. Ainsi se termina cette première et tragique atteinte à l'autorité, à l'honneur, à la vie de Jean Chrysostome.